In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Salut, c'est Victoire Tuillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité public. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Épisode 4. Que la fête commence. Je me souviens qu'avant de partir au Qatar, je m'étais dit super, nouvelle vie, nouvelle aventure. Et puis comme là-bas, c'est un pays musulman, je vais en profiter pour avoir une vie plus saine et me calmer un peu niveau fête, soirée et alcool. Pas du tout, je me suis complètement fourvoyée. Je crois que j'ai jamais autant bu que pendant ces 2 années au Qatar. Encore une fois, tout le monde a souvent cette image du Qatar que l'on confond souvent ailleurs avec l'Arabie Saoudite et donc qui serait un pays rigoriste, extrêmement conservateur et totalement hostile aux vices du monde moderne, entre guillemets, et donc en l'occurrence l'alcool et la drogue par exemple. C'est faux. Alors, sur la drogue, je m'y connais un petit peu moins, mais y en a. Hein. Alors après, il faut faire attention parce qu'on risque gros quand même, de la prison, des coups de fouet, même des condamnations à mort. Je me souviens d'un groupe de jeunes, dont des Français qui étaient en soirée dans un appart. Et il y a une descente de flics, visiblement, il y avait des pétards qui circulaient. Donc ils se sont fait dénoncer, hein, ce qui arrive très souvent au Qatar, il y a beaucoup de délations. Et le surlendemain, la moitié de ces jeunes étaient dans un avion pour quitter le pays, pour éviter justement de risquer une de ces sanctions assez sévères. Donc voilà, il faut faire attention. Après, ça se trouve, hein, moi j'ai fumé quelques joints à l'occasion. Je connais un certain nombre de personnes qui en consomment très régulièrement. Je sais aussi, alors ça c'est plutôt des bruits de couloir, mais qu'il y a un assez gros trafic de cocaïne et d'amphétamines. Les en fait qui visiblement plaisent pas mal à la jeunesse qatari. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des centres de désintoxication au Qatar, pour l'instant réservés aux Qataris. Mais donc, s'il existe ce type d'établissement, ça veut bien dire qu'il y a de la consommation. Ensuite, sur l'alcool, pareil, on peut en consommer facilement, mais pour le coup, en toute légalité, hein, même si, évidemment, c'est plus compliqué qu'en France. Il n'y a pas de bar dans la rue où tu peux siroter ta bière en terrasse devant les passants. Tu peux pas acheter ta petite bouteille de vin comme ça en faisant tes courses au supermarché. Il y a un certain nombre de contraintes, ça c'est clair. En fait, tu peux boire que dans les établissements homologués, c'est-à-dire les bars, les boîtes de nuit et les restos qui sont en fait au sein des grands hôtels de luxe. Parce qu'il y a qu'eux qui ont la licence pour vendre de l'alcool. Après, c'est Doha, donc des hôtels de luxe, il y en a quand même un certain nombre, donc t'as quand même pas mal de choix qui s'offrent à toi. Et puis, tu peux aussi boire à la maison, alors pour ça, il te faut un permis, une carte en fait que te délivre ton employeur et qui va te permettre d'aller acheter de l'alcool dans le seul supermarché de la ville qui en vend, même, je crois, le seul supermarché du pays. C'est un peu la caverne d'Ali Baba des produits haram, comme on dit, donc ça veut dire interdit par la religion islamique. Et donc, en fait, tu peux trouver tout ce qui est à base d'alcool et tout ce qui est à base de porc. Globalement, si t'es expatrié et que t'as pas vraiment un nom trop arabe qui ferait penser que t'es musulman, t'as le droit à cette carte et donc tu consommes tout l'alcool que tu veux au final. Donc bon, on a presque autant la possibilité de se bourrer la gueule qu'en France si on le souhaite. Et moi, ce qui m'a vraiment étonnée, en revanche, c'est que tu peux même partir très loin dans l'excès. Et ça, avec la bénédiction des autorités. Deux exemples. D'abord, il y avait cette histoire des boat parties. Donc, traduction, c'est des fêtes sur un bateau. C'était vachement la mode au moment où je suis arrivée au Qatar. Maintenant, un peu moins parce que je crois qu'elles ont été interdites depuis. Mais en gros, l'idée, c'était de partir faire la fête sur un bateau loué. Donc, en général, c'était un dos. Le dos, c'est le nom des bateaux traditionnels en bois qui servaient à l'époque pour la pêche à la perle au Qatar. Et donc, on était 20, 30, 50, voire même plus, en fonction de la taille du bateau, et on partait pour la journée. Mais attention, on partait équipé. C'est-à-dire que chacun ramenait sa glacière avec de la bouffe et un maximum d'alcool. Et alors, je rappelle que théoriquement, c'est complètement interdit de boire comme ça à l'air libre, même sur un bateau loué. Pourtant, je me souviens qu'on commençait à boire ostensiblement dès qu'on posait le pied à bord, alors qu'on était encore au port et que tout le monde nous regardait, y compris des Qataris. Et même une fois au large, on restait quand même proche de la côte et de Doha, quoi, donc totalement visible. En plus, il y avait un maximum de musique, et puis on n'était pas du tout les seuls. Enfin, il y avait une flopée de bateaux autour de nous qui faisaient exactement la même chose. Tout ça pour dire que c'était pas du tout discret. Il y avait des Qataris en jet ski qui venaient rôder autour des bateaux pour voilà frimer, draguer les nanas, qui voyaient clairement ce qu'on faisait. Et je me souviens même que de temps en temps, on voyait passer la police en bateau, voilà, qui passait pas loin et qui disait rien. Donc bon, c'était un peu la flotte de la débauche, mais sous l'indifférence totale des Qataris, donc hyper bizarre. Et autre exemple, le concept du liquid brunch. Alors ça, c'est pareil, ça m'a fascinée. En gros, comme son nom l'indique, c'était un brunch, ou plutôt un goûter en réalité, puisque ça commençait à 16h, composé uniquement d'alcool. Donc ça se passe dans le bar d'un hôtel de luxe, tu payes l'équivalent de 100€ l'entrée, et pendant 4-5 heures, t'as des boissons à volonté. Alors, moi, j'y suis jamais allée, mais mes potes m'ont raconté que c'était un spectacle de déchéance. Enfin, c'était hallucinant. Tout le monde ressort complètement ivre, enfin, c'est vraiment une beuverie, quoi. Et c'est quand même assez fou qu'un pays comme le Qatar propose ce genre de truc. J'y vois presque un encouragement à la consommation d'alcool. Enfin, et voir ça au Qatar, c'est quand même improbable. Et c'est là que tu vois toute l'hypocrisie du système, quoi. En façade, c'est le pays tout lisse, où l'alcool, c'est le mal, c'est l'interdit, il faut pas le voir, pas en parler. Mais dans la réalité, tout le monde en consomme, et beaucoup. Y compris d'ailleurs les Qataris, hein. Normalement, évidemment, ils n'ont pas le droit d'en boire. D'ailleurs, à l'entrée de chaque bar ou de boîte de nuit, on te scanne ta carte d'identité. Donc si t'es Qatari, en théorie, tu peux pas entrer. Alors, je dis en théorie parce qu'évidemment, quand t'es Qatari, enfin surtout quand t'es un homme, tu fais un peu ce que tu veux. Et donc, soit en falsifiant la carte ou en connaissant la bonne personne, ça passe. En revanche, parce qu'il faut pas trop entacher l'honneur du pays non plus, il est formellement interdit d'entrer dans ces établissements en habit traditionnel. Et c'est même écrit noir sur blanc, hein, sur une pancarte devant l'entrée. La seule exception, ce sont les restos. Parce que t'as quand même le droit de manger. Mais là, pareil, en théorie, les Qataris ne sont pas censés boire de l'alcool. Pourtant, j'en ai déjà vu avec des bières. Et puis, voilà, il y a toujours des petites techniques pour rester discret. Un serveur m'avait raconté que un Qatari lui avait demandé d'être servi dans un verre rouge pour pouvoir boire du vin tranquille sans éveiller les soupçons. Donc bon, tout ça montre bien qu'il y a une sorte d'hésitation permanente et de malaise, voire même, je sais pas comment dire, de conflit interne au sujet de, d'un côté, ce qu'on peut autoriser, ce qu'on interdit catégoriquement, et puis ce qu'on tolère en fermant à moitié les yeux. Alors là-dessus, l'anecdote la plus incroyable, c'est l'épisode de la fan zone. En gros, pour resituer, on est quelques jours avant le début du mondial de hand, au tout début de l'année 2015. Donc c'est vraiment l'événement de l'année au Qatar, parce que premier grand test, en gros, d'organisation d'une compétition sportive avant la Coupe du Monde 2022. Donc le Qatar est attendu au tournant, et ils ont mis un maximum de moyens. Et ils ont cette idée de construire une fan zone, donc voilà, un lieu dédié au public et aux supporters, avec tout un tas d'activités. Donc évidemment c'est le Qatar, donc on fait les choses en grand, il y avait une scène de concert, des salles de jeux avec baby-foot, ping-pong, voilà, tout un tas de restos, plein d'écrans géants pour pouvoir regarder les matchs, je me souviens qu'il y avait même une montgolfière dehors et une grue pour faire du saut à l'élastique, enfin voilà, c'était grandiose. Et donc au milieu de tout ça, il y avait aussi des bars avec la licence pour boire de l'alcool. Sauf que, après réflexion, les organisateurs se sont dit non, quand même, on peut pas associer la vente d'alcool avec un lieu officiel de l'événement, et donc finalement associer la vente d'alcool à l'événement lui-même. Ils se sont dit voilà, ça fait tâche, on reste quand même le Qatar, ça va pas. Et donc, à quelques jours du début de l'événement, alors que tout était prêt dans cette fan zone, et surtout que les mecs ont dépensé des millions pour construire ce nouveau lieu, et voilà, faire venir tout un tas d'animations. Enfin, je crois qu'ils avaient même fait venir le Cirque du Soleil, donc pour dire. Eh ben, ils décident de convertir le lieu non plus en fan zone, mais en fun zone. Et alors, alors même que le lieu était éphémère et ouvert seulement pendant la compétition, hein, tous, je dis bien tous les éléments liés au championnat de hand ont été retirés. Donc quand moi je suis allée dans cette fun zone pendant le championnat, il n'y avait aucun logo du mondial. Et ce qui était très drôle d'ailleurs, parce qu'il y avait encore la trace des autocollants sur les murs. Les écrans géants, plutôt que diffuser les matchs, du coup, passaient en boucle des films et des photos touristiques du Qatar. Et toutes les personnes qui avaient été embauchées pour travailler dans cet espace, donc y compris les artistes, avaient reçu comme consigne de ne pas faire de publicité sur le lieu. Donc pendant tout le temps de la compétition, ce lieu est resté une sorte d'ovni, un endroit à moitié vide, avec pourtant un tas d'animations, de l'alcool, mais sans aucune mention du hand. Donc cette histoire est juste incroyable. Enfin, les mecs ont dépensé des sommes astronomiques pour au final un résultat, mais ultra nul. Et voilà, c'est l'illustration parfaite de la relation du Qatar avec l'alcool et la fête, et plus généralement avec ce qui pour eux correspond à l'interdit. C'est vraiment, on fait un pas en avant et deux pas en arrière.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.